Alors, deuxième partie d'émission qui fait le. Comment ça s'appelle?
Il n'y a pas de générique.
Ah, si, moi j'ai fait un scratch.
C'est devenu un générique récurrent, ça.
Bon, alors, deuxième partie d'émission, et on commence cette deuxième partie d'émission avec The Artist de Serge.
C'était un hommage à The Artist.
Fallait le faire un peu plus lent, je crois qu'on n'a pas compris. Donc, de Serge Aznavitus. Avec
Jean Dujardin.
Avec
Bérénice Béjot.
Et
John Goodman.
Ouais, John Goodman.
Et
Malcolm McDowell.
Et James Cromwell.
Voilà, James Cromwell.
C'est Malcolm McDowell.
Ouais,
un producteur, il fait un peu...
Il fait un figurant, il fait pas un producteur.
Non, il fait un producteur.
Non, il fait un figurant.
Il fait un figurant avec Bérénice Béjot dans une scène, ouais.
Malcolm McDowell, de Orange Mécanique, oui. Oui, non, je confirme.
Il y a un chien, je sais pas comment il s'appelle, qui est pas mal du tout. Quoi.
Astra.
Très bien.
Non, j'en sais rien, je sais pas. Tu peux pitcher? Parce que j'ai pas compris que Malcolm McDowell était un figurant. Il fait quoi, déjà?
Il dit rien.
Non, mais Jean Dujardin. C'est une star?
Bon, je vais y aller. Donc, Dujardin est une star du cinéma muet. Qui va très très mal vivre la transition au cinéma parlant. En parallèle, on voit l'évolution d'une jeune fille d'un personnage joué par Bérénice Béjot, qui elle commençait sa carrière sous le muet, mais va vraiment exploser avec le parlant. Et il y a la relation d'amour entre les deux, l'histoire d'amour entre les deux. Elle va tenter de sauver Dujardin de sa déchéance. Voilà.
Et on est presque à la fin du film.
Lui l'a porté au début, elle le porte ensuite.
Voilà.
C'est les vases communicants.
On révèle pas grand chose.
On est obligé.
C'est totalement cousu de fil blanc.
C'était une
échange qu'elle a gardé. Vas-y, mais en fait, t'as pas parlé sur le dernier film, donc c'est à toi quoi la parole.
Ah bon, parce qu'on va pas voir les films, on a un traitement de faveur.
C'est bien regardé du coup.
L'histoire en elle-même. Relativement cousu film. Est-ce que c'est bien fait? Oui, sincèrement. Je trouve que c'est vraiment très très bien fait. On voit qu'Aznavitus a vraiment travaillé le sujet. On voit qu'il a vu énormément de muets, qu'il aime ça, sincèrement. Comme déjà dans l'OSS, hein, une énorme envie de mise en scène chez ce type-là. Il y a vraiment des belles choses. Les interprètes sont extrêmement bien. Maintenant, est-ce que c'est franchement intéressant? Non. C'est-à-dire que c'est des ressorts dramatiques qui ont été vus 500 fois, et notamment... Pas dans du muet, dans du parlant, chez Stanley Donen, chez Chaplin, chez des gens comme ça. Quand ils sont passés, enfin, dans le cinéma parlant, dans les feux de la rampe, des choses comme ça. Et même, par moments, moi, ce qui m'a un petit peu intrigué, c'est qu'on n'est plus dans le cinéma muet, c'est qu'on est limite dans le cinéma non sonorisé. Non, mais c'est rigolo, il y a des scènes qui sont concrètement dialoguées. Notamment, il y a une scène entre Cromwell et Dujardin qui est dialoguée, mais muette.
Mais ce qui est déjà le cas dans le cinéma muet, hein, ça arrive assez souvent.
Parce que là, on lit tout sur les lèvres.
Moi, j'en ai déjà vu hein, des scènes comme ça dans le cinéma muet de l'époque du muet.
Mais il y a beaucoup moins de dialogue. C'est une scène franchement entièrement dialoguée et moi, je lis tout sur les lèvres. Les cartons sont inutiles. C'est peut-être le seul bémol au niveau de la mise en scène. C'est la seule fois où ça me gêne un peu. Pour le reste, j'ai pas grand-chose à en dire. Pour moi, c'est quelque chose d'assez artificiel, sympathique, bien sûr, ça, mais sincèrement pas passionnant.
Moi, je trouve ça aussi très sympathique, mais pas très intéressant comme objet. Il y a un autre bémol, c'est l'utilisation de la musique qui fait clairement, et d'ailleurs il l'a dit lui-même, qui fait clairement années 30, 40, enfin, qui n'est pas du tout une musique de muet. Il y a eu de la musique à la toute fin de la musique, vraiment composée pour les films, et par exemple l'Aurore, tout ça, c'est des films qui avaient déjà une bande-son musicale, qui n'était plus jouée au piano comme ça dans la salle. Mais il y a déjà cette espèce d'anachronisme-là. Et effectivement, au-delà de l'exercice de style, moi, je ne vois vraiment... Enfin, je vois rien du tout, quoi. Ce qui me plaisait dans les OSS 117, c'était la satire, c'était le rire, c'était le... C'est ce qui, au-delà de l'exercice très bien fait, bah, dérapait un petit peu, était un peu rigolo, un peu agaçant. Et là, il est tellement éperdu d'admiration pour donc, cette période du muet, et en plus, pour les mélos, pour quelque chose comme ça d'un peu intouchable, que... Bah, on le regarde admirer quelque chose, mais enfin moi, je suis toujours en dehors du truc. Quoi. Je vois l'exercice, j'admire l'exercice, mais c'est tout.
Moi, j'avais un peu peur de l'exercice de style froid. Bon, en même temps, j'apprécie les exercices de style. Voilà. Mais moi, je le trouvais mouvant, en fait. Après, j'ai eu ma période muet qui est toute récente, où je m'en suis enfilé un certain nombre. Je dis enfilé, c'est un très mauvais adjectif, puisque c'était avec beaucoup de plaisir que j'ai découvert cette cinématographie.
On peut s'enfiler des trucs avec beaucoup de plaisir.
C'est vrai. Donc je me suis enfilé avec volupté. Et pour avoir lu quelques récits, pour avoir un peu en tête le passage du muet au parlant, moi je trouve le personnage de Jean Dujardin très touchant. Et je trouve que la façon dont il le joue est très touchante. L'exercice de style, je le trouve brillant, mais pas creux. Et surtout, ce qui peut être... ça joue avec les préjugés qu'on a sur le muet, tout en intégrant des choses qui sont vraiment du muet. Parce qu'on a une image, on a un peu une image toute faite de ce que c'est le muet et qui correspond pas... Enfin, pour en avoir vu quelques-uns récemment... C'est des films beaucoup plus modernes. C'est des films très modernes, en fait. Il y en a qui sont vraiment très, très modernes et très, très étonnants en termes de mise en scène. Tout bien, c'est du cinéma qui passe que par l'image. Donc voilà, c'est vraiment des façons de raconter une histoire qui est...
Il faut être inventif, tu peux pas faire autrement.
Voilà. Et donc, c'est vraiment pas du tout le côté vieillot et pépère qu'ont bien des films aujourd'hui.
D'ailleurs, le côté vieillot est arrivé au début du parlant, quand il y a eu plein de films qui ressemblaient vraiment à des pièces de théâtre où les acteurs jouaient au théâtre.
Mais parce qu'on embauchait des gens qui venaient du théâtre pour faire parler les gens.
Oui, et où du coup, le cinéma a perdu à ce moment-là, en fait, d'une certaine... Enfin, pas chez Lang, pas chez certains cinéastes, quand même, heureusement, mais... Oui, je le trouve bien plus pépère que des films muets de l'époque.
Oui, mais comme on a comme on a ce préjugé sur ce que c'est que le muet, je trouve qu'il se rapproche... Je trouve qu'il passe, effectivement, par un côté un peu cliché, mais qu'il le déplace un tout petit peu. Je trouve que c'est un bon véhicule pour aller voir ce que c'est que les films du muet... Et qu'en tant que film simple, il fonctionne plutôt bien sur, un spectateur qui...
Mais alors, qui le fera ? C'est comme Tintin de Spielberg, je reviens à ce que tu disais, Greg, il le fait pour le public américain, en gros, et pour le public d'aujourd'hui. Donc le public du monde entier qui a vu Tintin, qui a déjà lu Tintin, l'a déjà fait. Est-ce que les spectateurs américains vont aller lire les BD parce qu'ils ont vu le Spielberg ? Et est-ce que les spectateurs du Azanavicius vont aller voir des muets parce qu'ils ont vu The Artist ? Je pense pas.
Mais dans un cas comme dans l'autre, dans le Tintin comme dans le The Artist, je trouve que ce sont des films qui en eux-mêmes sont divertissants et sympathiques.
Sympathiques tous les deux, mais pas aboutis.
Je trouve The Artist plus abouti. Enfin, pour moi, c'est vraiment un film qui m'a touché. Enfin, je trouvais même émouvant.
Pour répondre à la question de FX, c'est pas le résultat qui compte, quoi. C'est l'intention. Sur le Tintin, il y a vraiment une volonté de faire rééditer, et c'est le cas d'ailleurs, des Tintins et de les faire relire. Sur The Artist, je crois pas, quoi. Enfin, a priori, pas, quoi. Il fait son film. Et je trouve que je suis vraiment d'accord avec tout ce qu'a dit Jenny. Je suis plutôt dans cette position-là. Et en plus, ça parle quand même d'une chose qu'aucun film muet n'a pu parler, c'est que c'est le passage au parlant. Et ça, c'est génial à travers, de le faire à travers ce qui est le drame du muet, finalement. Quoi. Donc ça donne une dimension, je trouve, complètement supplémentaire au film. Après, je trouve Bérénice Bejo supérieure à Dujardin, parce que je trouve que Dujardin, sur la partie un petit peu plus légère du début, est très très bien. Il est vraiment super. Et je trouve sur la partie émouvante, je le trouve un peu plus lourd et pas si bien que ça, quoi. Mais le film, après, voilà, il est étonnant. C'est un vrai plaisir de divertissement. Enfin, il faut le voir comme ça, quoi. Il ne faut pas le placer trop, comme ça a été fait à Cannes. Il n'y a pas forcément, d'ailleurs, besoin de le sélectionner à Cannes et tout ça, quoi. Mais c'est un cinéma, voilà. C'est un cinéma avant tout. Et ce n'est pas une mauvaise chose quand je vais dire ça. C'est un cinéma d'idées, de trucs et d'idées. Et c'est vraiment super bien fait, quoi.
Je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais un peu surpris qu'il soit sélectionné, enfin qu'il se retrouve sélectionné et tout. Mais ça lui a fait du bien au bout du compte, cette sélection. Mais c'est vrai que moi, j'aurais très bien vu ça comme une espèce d'objet un peu prestigieux hors compétition. C'était vraiment sa place pour moi.
Bah moi, je trouve ça bien qu'on défende. Enfin, je trouve ça bien qu'on donne un coup de pouce à ce genre de film. Enfin, qu'on donne d'un coup de pouce à ce genre de proposition. Du coup, je trouve que c'était sa place d'être à Cannes.
C'est vrai que pour
enfin, c'est peut-être pas le but de Cannes non plus.
Thomas Langman, qui est pas forcément un personnage toujours très sympathique, c'est quand même quelqu'un d'assez courageux, d'assez audacieux et qui a le mérite de vouloir produire des choses comme ça. Bah, c'est pas évident. C'est quand même pas évident dans un contexte actuel.
Ouais. Enfin bon, non. Et attends, faut arrêter 5 minutes non plus. Hein.
C'est avec dans c'est le genre du jardin, je
c'est
sais,
pas
mais
un Bruno Dumont, quoi. Relax, quoi. C'est quand même super. Si ce n'est que
les gens détestent le noir et blanc, les gens détestent le muet. Hein.
Si ce n'est que les mecs ne bavassent pas, c'est ultra commercial et ultra avenant, quoi. C'est pas un Bruno Dumont, faut arrêter 5 minutes, quoi.
Oui, d'accord.
Donc Langman, on va pas non plus.
Je pense sur l'idée du réalisateur au tout départ de dire je vais faire un film muet qui va se passer à Hollywood et qui va parler de la fin du muet et du parlant, je pense qu'il y a vraiment de l'audace. Après, la manière dont c'est fait avec les acteurs dans les, qui sont dedans et la manière dont c'est produit, il y a beaucoup moins d'audace autour. C'est quand même super soutenu, enfin voilà, pour que ça aille là où ça doit aller.
Mais sinon, tu le fais pas.
Non, mais sachant que le film.
Matériellement, aujourd'hui, je veux dire.
Il y a un film qui s'appelle Sidewalk Stories qui a été fait avec peu de moyens, et puis voilà, et ça a été fait, voilà, et c'est un très bon film muet d'aujourd'hui et qui est une réussite.
Ça a 20 ans quand même, et puis c'était aux États-Unis.
Mais sachant que
tu peux le faire.
Tu mets là l'acteur le plus bankable du cinéma français actuellement. Tu le fais aussi pour un marché international totalement. Il y a John Goodman, il y a tous les cartons qui sont en anglais, le générique qui est en anglais. Je veux dire, Langman, il est pas de la dernière pluie quand même, hein, et il sait où va son pognon, quoi. C'est pas non plus, c'est pas de la philanthropie, ça. Hein.
Non, mais Romain, il est raccord avec le film, il est muet.
Ouais. Non, mais j'aurais pas dû y aller, je crois. Non, mais je sais pas, ça me...
Il faut surenchérir dans l'argumentation, Romain.
Non, mais là, je peux pas. Je l'ai regardé à moitié parce que Non, mais c'est
parce
pas,
le son,
c'est
en
pas
fait,
intéressant. Hein. Ça ne concerne que moi, en fait, ce que j'en ai pensé. Voilà.
Non, mais t'as une émission radio, tu sais.
Oui,
il le fait pas sur tous les films non plus.
Ouais, mais non,
bah,
mais...
Attends les films suivants, hein, ça se trouve.
C'est Joker, c'est ça.
Non, mais c'est, je sais pas. Moi, je me suis ennuyé, mais j'ai rien à en dire. Je veux pas empêcher les gens d'y aller.
Tu les empêcheras pas, Romain, t'inquiète pas.
Non, mais je voudrais pas.
Ils y vont déjà.
Ce n'est pas aussi puissant.
Oui, ils y vont déjà. Non, mais je crois vraiment que c'est pas intéressant.
Bon, bah, c'est bien parce qu'on est déjà long et on va passer au film suivant alors. Tu restes muet.
Ouais, voilà. Ouais.
Donc tu soutiens ce film
mots, là, en fait. Ouais. Non, je soutiens pas, non. Parce que j'étais très embarrassé quand même à la fin, là, pour le truc de claquettes. Je suis pas sûr qu'ils auraient dû faire ça.
Parce que Jean Dujardin ne sait pas faire des claquettes, ouais. Contrairement à Bérénice Bejo. Ouais. Et quand, effectivement... Oui, bon, hop. Skylab, de Julie Delpy, avec...
J'ai pas vu.
Julie Delpy.
Elsmols Nino.
Eric.
On dirait un acteur de Stargate, comme ça. Un personnage de Stargate.
Attica Or.
Lovski Noémie.
Oui.
Il y a,
j'en dirai rien, mais parce que j'ai pas vu, hein, ce que c'est.
Il y a le mec de d'Inglorious Bastard, je n'ai oublié le nom.
Oui, Denis Ménochet.
Voilà.
Et Albert Delpy.
Exactement. Albert Delpy, bien sûr.
Alors que j'aurais pu prendre Brad Pitt, par exemple, comme mec d'Inglorious Bastard.
Je me serais souvenu du nom pour l'occasion.
Et le jeune homme qui jouait dans Les Beaux Gosses et qui est très drôle. Oui. Je ne sais plus comment il s'appelle.
Ah oui, c'est lui. Je me suis dit que j'avais bien vu sa tête déjà.
C'est tout ça, quand on voit l'abandon, c'est ce qu'il fallait voir le film, du coup.
Ah, est-ce qu'il fallait vraiment le voir au cinéma? Je sais pas, mais c'est vraiment sympathique en même temps.
Ah oui, mais bon, moi j'ai une énorme...
Si on va voir tous les films sympathiques.
J'ai une énorme affection, moi, pour Julie Delpy, pour ce qu'elle fait en général. Today's in Paris, ça me fait beaucoup rire. Enfin, elle a fait tellement de trucs qui sont... Enfin, vraiment des trucs qui sont super sympas. Et là, en l'occurrence, elle commence, comme Maïwenn, à balancer 50 personnages. Et on se dit, autant de personnages en même pas 5 minutes de métrage à l'écran, ça va être imbouffable. Concrètement, on va être perdu. Et finalement, non.
Bah, c'est-à-dire comme elle les garde tous autour de la table, c'est bouffable.
Oui, mais sincèrement, en l'espace de 45 minutes, elle a familiarisé le spectateur avec tous ces personnages. Et ça, le film se déroule parfaitement. Même si concrètement, il n'a rien de révolutionnaire, c'est un film très nostalgique, très amusant. Et qui retranscrit un esprit, et en ça il est assez, assez surprenant. Voilà, on est trentenaire, je pense qu'on a vécu ça à môme, cette fin des années 70, et moi ça m'a ramené à ça, à des souvenirs, à des trucs un peu oubliés, à des histoires de famille où on s'engueule sur la politique, mais de manière ultra virulente.
C'est-à-dire que vraiment, on sent que le politiquement correct n'était pas encore en place. Exactement. et que c'est vraiment, du coup... Mais c'est vrai qu'on s'en souvient. Enfin, vu nos âges, on se souvient de cette époque où on pouvait dire des choses qu'on pourrait vraiment plus du tout dire aujourd'hui. Bah, et faire des choses...
Tu peux dire tout ce que tu veux à table, en famille, à la campagne, a priori.
Tu le fais pas. Tu le fais plus. Il n'y a plus de conversation comme ça.
Non, mais t'as pas vu le film, toi.
T'es sûr que vous avez dit, tu peux dire des trucs. Hein.
Non, ça se dit plus.
C'est l'impression que j'ai eue aussi, sachant que c'est pas non plus un film démonstratif à ce niveau-là. C'est juste très sympathique, avec beaucoup d'affection. C'est bien écrit, très bien interprété, parce qu'elle va chercher les gens qui sont pas forcément des têtes d'affiche, mais qui sont vraiment très très solides dans l'interprétation et très généreux. Et voilà, je trouve que c'est un film éminemment sympathique.
Moi, j'ai poussé. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu as tout dit, quoi. Je pousse le bouchon encore un peu plus loin, c'est-à-dire produire et réaliser un film comme ça avec ces acteurs-là, avec ce rythme-là qui est un petit peu comme ça nonchalant, qui va un petit peu à droite, suivant la manière dont les journées se passent pendant ces quelques temps où cette famille se retrouve, avec des acteurs qui sont pas bankable. Enfin voilà, tout ça, ça va à l'encontre de tout ce qui se fait dans le cinéma français aujourd'hui, quoi. Le même truc autour d'une maison. Tu réunis une brochette de stars et des trucs comme ça.
Si Esposito, il en fait des trucs comme ça,
oui, mais ça fait à l'encontre,
ouais, oui, voilà,
à l'encontre de tout ce qui se fait. Et le truc nostalgique et n'est jamais appuyé, c'est-à-dire tout d'un coup tu t'en rends compte, tu te dis mais oui putain mon oncle qui était de gauche, qui s'engueulait avec mon père de droite, tu vois, c'était exactement ça. Il y a un mec qui s'appelle Mitterrand qui commence à monter, tu vois. Et c'est fait, c'est pas de la nostalgie en fait, c'est nous de la nostalgie à nous parce que quand on l'entend, on se dit bah oui c'était moi quoi. Mais dans le film c'est vivant quoi, c'est-à-dire que les scènes sont un peu exubérantes. Un peu, voilà.
C'est quand même de la nostalgie parce qu'il y a le personnage joué par Karine Viard qui encadre le film et c'est ses souvenirs.
Alors non, non justement parce que dans cette scène là on est aujourd'hui. C'est la scène du début en gros et de toute fin parce qu'on n'a pas fait le pitch du film.
un
petit peu, oui, un petit peu quoi. Et en gros, c'est une scène qui n'a l'air de rien qui se passe dans le TGV, mais qui est symptomatique de nos privations de liberté aujourd'hui, qui est sous couvert de confort, de machin, de bonne entente et tout ça. En fait, les gens ne se parlent plus et puis voilà, il n'y a plus possibilité d'échanger. C'est-à-dire qu'on a, c'est pas qu'on est plus bête qu'avant, c'est que on a été pris par le système et que tout le système est plus fort. En gros, finalement, quoi, qu'on s'en rend pas compte et qu'on n'ose plus parler. À la personne de la même aux gens qui nous entourent, on va dire, de la même manière. Et je trouve ça vraiment bien de l'avoir fait. Moi, ça m'a sauté à la gorge, ce truc. J'ai dit, mais putain, c'est évidemment ça, quoi. Et le film, dans la partie des années, fin des années 70, fonctionne exactement de la même manière, par discrétion. Moi, ça me fait penser même j'ai revu Les Beaux Gosses il n'y a pas longtemps. Il y a un côté fourre-tout un peu bordélique. Tu reviens, il y a des scènes un peu débiles, un peu, voilà, où Albert Delpy arrive un peu bourré, chante juste une chanson, c'est juste beau, le moment est pris comme ça, puis on passe à autre chose, quoi. T'as l'impression que c'est pas construit et ça fait un film juste super. Moi, je trouve que c'est super.
Très sympathique. On parle ensuite de The Ballad of Genesis and Lady J de Marie Lozier avec Genesis and Lady J. Et donc c'est un documentaire. Et qui veut pitcher?
Alors tu l'as vu, ouais. Alors c'est l'histoire. Alors, moi je connais, j'aime beaucoup le film et je connaissais justement, et je l'aime aussi parce que je connaissais pas du tout ce gars-là, quoi. Ouais. C'est qui est Genesis O.
P.O. Ridge.
P.O. Ridge, pardon, excuse-moi, parce que en plus, putain, super, j'ai animé un débat là-dessus, quoi.
P.O. Ridge en fait, hein, quand tu colles les lettres, c'est ça le truc.
Bah ouais, c'est ça. Pour
retenir, je veux dire. Hein.
Qui est un des précurseurs de la musique industrielle et qui est grand aussi artiste, enfin voilà. New-Yorkais, enfin qui fait partie de plein de cercles et de tout ça, quoi. Qui un jour dans sa vie va tomber amoureux fou d'une fille qui s'appelle Lady J. Et cet amour-là va aller qui est perdu. Voilà, un amour est perdu. Va être filmé par la réalisatrice
Marie-Lozier.
Bon, je suis à la masse, moi.
C'est un amour qui va les transformer, on peut le dire.
C'est un amour qui va les transformer, tout à fait, puisqu'ils vont tout faire pour se ressembler l'un l'autre le plus possible. Donc, un plan mammaire, opération chirurgicale, tout ça.
Lui, à son âge, il ne va pas refaire un enfant. Il en a déjà deux, je crois. Et plutôt que de faire un enfant, ils vont créer autre chose, la pandrogynie, voilà. C'est-à-dire qu'ils vont se fondre en une personne.
Ils vont essayer, voilà. C'est très court, hein, ça dure 1h15, c'est filmé en caméra Bolex 16 mm. Ça a été fait sur une période de 7 ans, donc il y a vraiment du temps qui passe, par Marie Lozier qui est juste quelqu'un que j'imagine en tout cas a pu tout d'un coup rentrer dans ce couple-là, en discrétion, enfin voilà, à distance, tout en les connaissant, quoi. C'est un documentaire, mais jamais on le voit et on le vit, en tout cas, moi je ne l'ai pas vécu comme un documentaire, c'est-à-dire tu n'apprends pas grand-chose, quoi. Mais c'est juste, voilà, c'est... la transcendance d'un amour et d'une fin d'amour finalement voilà qui est hyper moi
pas je trouve une ça fin, pas une fin du tout
ouais mais une fin enfin tu sais pourquoi je dis ça voilà
ouais mais pas du tout parce que ça continue
oui ça continue mais bon voilà c'est hyper touchant, faut absolument aller voir ça, c'est une contre-proposition à tout ce qui se passe dans le cinéma depuis un an, enfin dans tout ce qu'on a proposé cette année-là parce qu'on n'a jamais vu un film comme ça, je pense on peut pas le comparer à aucun, on peut ne pas le comparer, enfin on ne peut pas le comparer à aucun film de ces derniers temps.
Dans le circuit commercial, non.
Voilà, et les parties musicales qui sont assez nombreuses dans le film sont vachement bien. Enfin, voilà. Allez-y.
Je trouve qu'elle a trouvé une belle justesse pour justement filmer ces gens qui font de la musique et qui ont une histoire d'amour, et elle a réussi à échapper à filmer l'un puis l'autre, l'un avec l'autre. Elle réussit effectivement dans le côté transgenre, quoi. C'est dans leur couple, mais c'est aussi dans son film. Tout se confond, quoi. C'est une grande orgie de genre cinématographique, de personnes, même de musique, parce que la musique industrielle, par exemple, est quelque chose qui, à titre individuel, peut rebuter. Ça fait partie de ces musiques qui sont pas immédiatement aimables ou séduisantes. Mais c'est pas que ça, c'est pareil, c'est de la musique industrielle, mais c'est aussi du punk, c'est aussi du rock, c'est aussi c'est même aussi des slow. Enfin, il y a beaucoup d'amour, il y a même beaucoup de kitsch, il y a beaucoup de pop. Enfin, il y a tout ça, c'est riche de beaucoup de choses. Il y a aussi un rapport orgiaque et vomitif. Enfin, et puis il y a de la douleur, quoi. Enfin, c'est des gens qui ont choisi de se laisser transpercer par tout ce qui pouvait venir de l'extérieur ou de l'intérieur, avec les risques que ça comporte. Et donc, et puis c'est étrange. Je trouve que c'est étrange pour le coup. Là où je rejoindrai Stéphane dans le sens où c'est une contre-proposition à tout ce qu'on a pu voir, c'est plutôt que de voir ça dans une salle de cinéma, c'est très bizarre, parce que c'est presque malaisant, parce qu'on se dit on ne devrait pas le voir sinon en étant avec eux. Et c'est très bizarre d'avoir une distance, en fait. C'est très bizarre d'être séparé par quelque chose et de pas pouvoir les toucher, de pas pouvoir boire ou manger avec eux, c'est très étrange. Et j'ai rarement senti ça, quoi. Être séparé d'un écran avec ces gens-là, avec ce film-là, ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit non, je devrais me démerder pour y être. Je ne devrais pas me contenter d'être dans mon fauteuil, dans une salle de cinéma, pour voir ça.
Ben moi, je me suis fait rattraper un petit peu par ça, mais vraiment à la toute fin du film. Sinon, ça m'a intéressé, mais ça ne m'a jamais vraiment... Ils sont tellement en représentation, tellement dans un geste artistique, que j'apprends des choses, je m'intéresse, je regarde ça finalement comme un documentaire. Mais... Il a fallu qu'il y ait une certaine forme de pathos qui arrive vraiment, de par son sujet, à la fin du film, pour que ça commence à me rattraper un petit peu. Mais c'est vraiment le dernier quart d'heure. Sinon, je l'ai regardé, mais je ne l'ai pas vraiment ressenti.
Ouais, moi, je suis entre vous trois. Mais effectivement, je pense que les gens qui connaissent Jenny Spearidge le vivent différemment, parce qu'ils connaissent aussi l'histoire. Moi, j'arrivais complètement neutre dans le film, en ne sachant pas qui c'était. Et du coup, en me posant des questions sur... la façon, par exemple, les DJ restent tout le temps très hermétiques. C'est toujours Genesis Peverage qui parle. Et du coup, elle est très mystérieuse et on attend toujours qu'elle se mette à parler. Et du coup, on est comme ça dans une espèce de frustration. Pas vraiment de frustration, mais on a ce personnage qui est vraiment un personnage de muse, qu'on commence à interpréter, à trouver pas forcément sympathique. Et ça, c'est un peu contre-productif par rapport au film, parce que c'est une histoire d'amour. Et à un moment, on se dit, oh, c'est un peu... on commence à lui prêter des intentions moins sympathiques que voilà. Et après, il y a les intervenants... Alors, ne connaissant pas le milieu, enfin la musique industrielle, je connais pas très bien. Par contre, plus Burroughs et Brian Gesine, enfin le cut-up, etc. Comme ça, c'est des choses que je connais un tout petit peu plus, je peux me rattraper aux branches sur ça. Et comme Marie Lozier, dans sa façon de filmer, et que Genesis Peerage, dans sa façon de faire de la musique, pratique le cut-up aussi, hein, on a un peu comme ça un objet avec des collisions, avec des... Enfin, par exemple, dans le film, le début, c'est des choses qui ont été filmées à la fin. On a comme ça un bordel temporel qui fonctionne assez bien. In fine, en fait, le film prend son sens à la fin, quand on a compris ce qui se passe. Enfin, prend son sens pour ceux qui ne savent pas de quoi il est question dans la vie de ces personnes, à la fin, quand on a compris que c'est un peu la fiction c'est un peu la réalité qui dépasse la fiction, et ça devient un peu voilà, ça aurait pu être un tout autre film si c'était pas passé quelque chose. Apparemment, la réalisatrice avait des intervenants extérieurs. Ça aurait pu être quelque chose pas banal, mais de beaucoup plus balisé, avec des regards croisés, des choses comme ça. Là, non, on a vraiment juste Genesis Peerage qui est à la parole, et ce qui gravite autour, et cette icône qui reste mystérieuse. Et enfin, voilà. Mais je suis un peu sur le film, je sais pas trop. Je suis à moitié séduite et à moitié un peu dans le vague.
En tout cas, vous en parlez vachement bien tous les trois.
Alors, film suivant.
C'est une bonne note comme ça, c'est très bien. Hein.
Poulet aux prunes de Marjane Satrapi et Vincent Paronneau avec
Mathieu Amalric.
Et
Jamel Debbouze.
Et
j'ai vu la bande avant ça, donc je regarde, je me souviens des personnes.
Édouard Médéros.
Marianne Médéros.
Oui, donc Édouard Baird.
Je sais pas, un acteur. Christophe Valls, un acteur d'Inglorious Basterds, non, non, ça marche pas, non.
Voilà, qui veut pitcher?
Un homme. Oh, pourquoi je me suis lancé là-dessus?
Attention, Romain pitch.
Un homme.
20 minutes.
Un homme se laisse mourir parce que son violon est cassé.
Oui, c'est ça.
On va découvrir que ce n'est pas uniquement l'histoire du violon. Etc. Bon. Bon,
oui, le violon est rattaché. Mais ouais. Ça vient tard. Hein. Voilà, on va comme tu dis, on va découvrir.
Voilà. Bon, ben voilà, qu'est-ce qui. Bon, moi, je l'ai vu il y a quoi, 5 heures de ça. Hein, donc, c'est encore très.
Où
chaud.
Ça?
Hein?
Pas à Cannes?
Non, pas à Cannes, non. C'est encore très très chaud pour moi. Je dois dire que je ne connais pas le matériau original, je ne connais pas la bande dessinée de Marjane Satrapi.
Parce que nous on connaît, mais.
Ne dis pas ça comme ça!
Je suis sûr que comme tu appelles la BD, t'as aimé le film.
C'est marrant, tu dis des choses déjà plus intéressantes que sur Tintin, c'est bizarre.
Donc, et oui, j'ai aimé et ça m'a énormément touché. Et je trouve, c'est devenu un lieu commun de dire ça, je trouve Amalric incroyable, vraiment. Il y a cette scène où il rencontre cette femme qu'il a aimée dans la rue, et cette scène est au début du film. Et la scène au début du film paraît relativement anodine, mais la manière dont il la regarde, l'intensité qu'il met dans la scène, te hante tout le film. Tout le film. Tu sens qu'il y a quelque chose d'absolument incroyable. Ça passe pas par les mots, ça passe juste par Amalric. Et on le retrouve à la fin du film et on comprend, bien sûr, l'origine de ce regard et de la manière dont il joue cette scène. Et je trouve ça extrêmement, extrêmement fort. C'est très, très fabriqué. Je me suis posé la question pendant tout le film de ces décors peints, etc. À quel point c'est judicieux de garder un lien très physique, très graphique avec le support papier, avec la bande dessinée. Parce que finalement, la bande dessinée est toujours là.
Sauf qu'elle n'a vraiment rien à voir dans le style.
Ouais. Et je fais gros pigeon parce que je ne l'ai pas lu, là.
C'est bien, c'est bien.
Mais en tant que simple spectateur, ce lien graphique comme ça, il m'a semblé un peu surfait pendant tout le film, mais au fur et à mesure, je l'ai assimilé. Et ça m'a aidé à rentrer dans le film, à rentrer dans ce côté un peu mythologique, un peu conte de fées, un peu intemporel. Et du coup très 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 lyrique comme ça, très très enchanteur, et ça m'a vraiment vraiment séduit, et puis moi voilà, j'ai été vraiment touché par le film, vraiment.
Je trouve le côté fabriqué, en fait, c'est pour moi, c'est plus dans l'histoire, hein, que je trouve brillante sur dans la bande dessinée, et qui dévoile tout son côté manipulateur dans le film, qui est du coup à la base dans la bande dessinée aussi. Donc je la trouve brillante et très manipulatrice, ce qui est pas forcément une mauvaise chose au cinéma. Hein, on peut accepter de se laisser trimballer, mais moi j'étais un petit peu déçue par les juxtapositions d'univers. Je trouve qu'il y a il y a des scènes où on se dit ouais. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de scénettes, en fait. Il y a des choses où, en plus, j'ai l'impression de voir ce qu'a fait Paronneau, de voir ce qu'a fait Satrapi. J'ai comme ça une impression de dissociation qui devient un peu hors film, qui est pas, enfin, ça veut dire que voilà, ça fonctionne pas dans un élan de voilà, je suis pas entièrement dans le film, et je pense que il va vraiment cas entre des choses très réussies et des choses qui auraient dû être très réussies et qui s'intègrent mal pour moi.
Je veux dire aussi que je trouve l'écriture admirable, c'est peut-être lié simplement à la bande dessinée. Aucun personnage n'est laissé de côté. Le personnage de Marianne Medeiros, qu'on pourrait simplement condamner, qui pourrait être un personnage unilatéral, eh ben non, il est magnifiquement sauvé sur deux scènes, quoi. Et je le trouve vraiment.
Est brillamment écrit. Enfin, moi, je trouve ça vraiment brillamment écrit et brillamment développé, mais très manipulateur sur grand écran, encore une fois.
Je ne sais pas, hein, concrètement.
Je m'étais pas rendu compte que je m'étais fait manipuler comme ça dans la bande dessinée. Dans la bande dessinée, je trouvais ça juste. J'étais prise et j'étais pas en train de décortiquer ce qu'on était en train de me faire. Alors que je ne me souvenais plus vraiment de l'histoire, dans le film, je continue à trouver ça assez brillant, mais tout en me sentant un peu trimballée.
Ouais, enfin, tout ce que tu as dit, en fait, c'est tout ce que Greg, ouais, t'as dit, c'est tout ce que j'aurais aimé ressentir, parce que c'est ma BD de Satrapi que j'aime vraiment énormément. Et bon, c'est vrai que c'est un handicap de connaître la BD, finalement, en arrivant là-dessus, certainement, puisque comme c'est une BD où il y a une lame de fond qui arrive au bout de. Une histoire où il y a une lame de fond qui arrive au bout de deux tiers des films, quand tu sais ce qui va arriver, c'est vraiment un problème, quoi. Je trouve que. Je trouve le film très très moyen, mais finalement je l'aime vraiment pas beaucoup parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont très très loupées, quoi. Et je trouve que dans la direction d'acteur, sauf Amalric et de Medeiros, je trouve que tous les seconds rôles après sont vraiment plantés, quoi. Je trouve que je sais plus, on a cité Jamel Debbouze, c'est vu, ça sert à rien. Enfin, le diable joué par Edouard Baird, pareil. Enfin, c'est, enfin voilà, que le reste, du coup, ça devient l'univers, tout ça, ça devient du décorum. Que voilà, que ça a pas de consistance, que ça a pas de matière, que ça tient par l'effet du scénario qui quand même est intéressant, tu vois, mais que voilà, c'est pauvre et c'est pauvre en cinéma, c'est pauvre en, enfin voilà, je pense que ce qu'ils ont fait sur Persepolis, c'était bien parce que ils sont partis des voix, il y avait une idée comme ça qui guidait du cinéma à l'intérieur du trait et du dessin, et que là, quand il s'agit de passer à être, quand il y a une position d'être vraiment des réalisateurs, tous les deux, je les trouve un petit peu paumés quand même, quoi.
Ouais, c'est une grande déception aussi. Je fais aussi partie de ceux qui avaient lu la BD, mais je trouve que ça manque cruellement d'audace. Je pense qu'ils n'auraient pas dû appeler le film Poulet aux prunes. Ils auraient peut-être même dû éviter de jouer avec la BD, parce que finalement, évidemment qu'ils s'en servent, évidemment qu'elle est à la base du film, mais on en est tellement loin, c'est tellement autre chose. En plus, avant, ils ont fait tous les deux Persepolis, qui était pour le coup une lecture, une vraie réussite, une vraie lecture de la BD. Donc là, je pense qu'ils auraient dû plus prendre en compte la construction d'une filmographie qu'ils sont en train de faire tous les deux, parce que les BD, c'est que Marjane Satrapi, Vincent Parrono, qui est aussi BDaste. Alors, je ne sais pas s'il fait partie de ceux qui aiment ce terme ou pas, ça se divise. Mais qui est lui aussi sous le nom de Winchlus, et aussi dessinateur de BD, mais n'a pas écrit les BD. Par contre, sur les films, ils sont tous les deux ensemble. Ils auraient dû peut-être prendre conscience de ça. Après, ils ont offert effectivement à Amalric un rôle qui est à la mesure de son talent, et surtout qu'il le consacre comme l'un des plus grands acteurs romantiques qui a existé. Mais non, enfin, je trouve que c'est pour le coup vraiment un passage au cinéma, enfin traditionnel, hors cinéma d'animation, à rater, quoi. Parce que c'est assez désincarné. Et puis quand tu as lu la BD, quasiment aucune chance de t'en sortir sur le film.
Non, mais t'as intéressant. Sur l'intention de départ, c'est super. C'est une prise de risque énorme, quoi, dès le départ, quoi.
J'ai pas vu, mais je suis d'accord avec vous.
C'est ça qui est beau.
Mais en même temps, tu vois, je vois des réactions en sortie de salle et tout ça, et je vois des gens qui sont vraiment super émus par le film, quoi. Donc,
mon papa l'a vu et a dit qu'il adorait qu'on lui raconte une belle histoire et qu'il avait trouvé ça très beau.
Voilà, et ce que dit Greg, ça me touche vraiment, quoi. Ça me fait plaisir. Voilà.
Non, mais bon, je vais acheter la BD demain.
Tu vas dire le film est pourri. C'est...
Non, tu vas dire la BD manque de couleurs. Alors, Les Marchés du Pouvoir de Georges Clooney avec...
Georges Clooney.
Fastoche.
Ryan Gosling.
Encore.
Evan Rachel Wood.
Evan Rachel Wood. Il y a Philippe Seymour Hoffman.
Marisa Tomei.
Ça y est, tu as retenu son nom.
Pourquoi, la dernière fois, j'ai oublié?
Oui, tu t'es trompé, tu l'appelais Mélissa Léo.
Mais c'est elle.
Mais oui.
En fait, tu vois, il l'a pas reconnu pour le
citer. Non, j'ai vu en fait... Mais je suis super content.
C'était la dernière fois dans un film avec Ryan Gosling et tu l'as appelé Mélissa Léo.
Non, c'était pas dans The Wrestler.
Ouais, c'est pas la dernière. Romain,
non, mais
c'est... Non.
La dernière émission, Romain.
The Wrestler, c'est sorti il y a 3 ans.
Dis donc, deux films ensemble, ils ont une petite histoire.
Bah, une grosse histoire, même, j'ai l'impression.
Bon, il y a aussi Paul Giamatti.
Voilà, c'est ça.
Et il y a aussi Jeffrey Wright.
Voilà. Après, il n'y a plus personne.
Non, mais en même temps, ils sont tous. Enfin, je veux dire. Voilà, c'est
Philippe Seymour.
Vous l'avez dit. Attends, tu nous prends pour des amateurs.
Qui veut pitcher? C'est pas tout ça, hein.
Moi, je l'ai vu cet après-midi.
Où ça?
Non, ce matin, c'est trop vieux.
Je me lance?
Ouais, vas-y.
Une campagne, j'allais dire publicitaire, une campagne électorale pour je ne sais plus quel poste aux États-Unis.
Alors, je vais le faire parce que vous en sortez
mais
pas.
Non, c'est les primaires, c'est pour, être, pour se présenter.
Pour les primaires démocrates, pour élire le candidat du Parti démocrate à la présidentielle.
Allô, yo.
Et il y a Ryan Gosling, dont j'ai oublié le nom du personnage, qui joue Steve, Stephen, parce qu'il a plusieurs prénoms. Qui... Non, mais ça, c'est vrai.
Oui, mais c'est à 10 minutes.
Oui, mais c'est Steve, Steven, Stephen, quand même. Il joue le conseiller du candidat démocrate joué par George Clooney, qui a donc un concurrent qu'on ne voit quasiment jamais.
Oui.
Qui vont donc élire le candidat démocrate qui est censé gagner contre les républicains qui sont des grosses pipes cette année-là et qui ne devraient pas s'en sortir. Donc en gros, ça revient quasiment à une élection présidentielle puisque le poste semble promis aux démocrates. Et donc, lutte de pouvoir, académisme, classicisme.
Là, t'es passé à la partie critique. Mais en même temps, hein, il suffit qu'on amorce un pitch tout pourri et tu embrayes sur du bon.
Exactement.
Mais trop vite.
Mais,
Par contre, après, t'embrayes sur de la critique.
Non, mais...
Mais je suis pas loin d'être pas d'accord.
Vous rappelez le titre du premier film de Georges Clooney?
C'est Confession d'un homme dangereux.
Eh ben alors, moi, je suis complètement dérouté parce que je me suis dit, ah, ce mec-là fait des trucs complètement fous, tout ça. Enfin, c'est le souvenir que j'en garde, hein, peut-être à tort. Mais je me disais, ouais, il est déroutant et tout. Et alors là, je voudrais pas trop m'avancer dans des comparaisons parce que j'en suis pas capable, je suis pas légitime, j'ai pas assez de connaissances et tout. Mais j'ai l'impression que c'est extrêmement classique, que c'est très, très plan-plan. Alors, en plus, le même mois que l'exercice de l'État, ça prend cher. Et
le même jour.
Ah oui,
le même jour.
Ouais. Ah ouais,
c'est quand même assez absolument.
J'ai l'impression qu'il y a un écart.
Parce que tu as vu l'exercice de l'État en séance de presse, peut-être?
Non. Ouais. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une décennie entre les deux films, quoi.
Mais je crois qu'il y en a une.
Pour boire un week-end, mais sinon tout s'est bien passé.
Mais je crois qu'il y a une décennie entre les deux films pour de vrai.
Et c'est évidemment pas. Non, mais c'est évidemment pas inintéressant ni rien. Mais alors, c'est tellement peu surprenant, j'ai l'impression que vraiment on reste très très à la surface d'un truc et que c'est le tout début et le tout venant de la manipulation politique et tout ça. Alors en plus, pour continuer avec les trucs, mais Ryan Gosling qui est aussi dans Drive le même mois, enfin tout de toute façon, tout est
dans Crazy Stupid Love, trois films le même mois,
j'ai pas vu, mais tout est au désavantage de des marges du pouvoir de toute façon. Enfin, toute comparaison nuit au film de George Clooney. Donc voilà, c'est pas désagréable, mais c'est extrêmement, extrêmement plan-plan. Ça ne donne pas grand chose. C'est un os à ronger déjà rongé.
Mais c'est plan-plan. Je pense que ça se veut plan-plan. Et tu citais Confession d'un homme dangereux, qui est son seul film où il fait un petit peu des espèces d'expériences de cinéma comme ça pour faire genre. Good Night and Good Luck est filmé de manière presque comme une dramatique télévisuelle. Et sa comédie là, qu'il a faite après avec. Ouais.
Ah bon ?
Avec le foot américain.
Ouais. Ouais, mais Good Luck, c'était en noir et blanc, c'était filmé tout le temps en gros plan, si je me souviens. Mais en fait,
oui,
ça paraissait déjà plus audacieux.
C'est audacieux aujourd'hui, mais c'est un style très classique au bout du compte. Ouais. Et pour moi, c'est pas le problème du film. C'est pas ce classicisme qui, à mon avis, est très assumé. Il a voulu faire un thriller un peu 70s, manipulation politique, tout ça, paranoïa, patati patata. Filmé vraiment comme ça, quoi. Comme tu dis, plan-plan, c'est pas forcément ça le problème. Moi, le problème, c'est qu'il n'ait pas eu le... Il a un sujet qui est quand même passionnant, donc la politique, la fabrication d'une campagne. Et c'est, contrairement à l'exercice de l'État, où c'est intrinsèque au style du film et au genre, il se sent obligé de passer par le thriller pour raconter une histoire au bout du compte. Et moi, je trouve la partie, justement, manipulation un peu plus de la moitié du film, très faible, très artificiel, parce que tu sens que c'est là pour... on n'a rien raconté, alors que c'est pas vrai. Il raconte plein de trucs, mais il s'en rend pas compte, j'en sais rien. Il faut raconter quelque chose, donc on va mettre un enjeu dramatique. Alors que l'enjeu dramatique, il est là, c'est cette compétition qui est justement évacuée, parce qu'on ne voit pas son... On ne voit jamais son adversaire. Il y a une espèce d'acteur qu'on connaît pas, qu'on te met comme ça une fois rapidement. Enfin, on le voit quasiment pas, quoi. Et donc, il se défausse là-dessus. Tu sens que c'est pas ça qui l'intéresse le plus, qui l'aide à faire quand même, malgré tout, rebondir son histoire, pour arriver, heureusement pour moi, à une fin qui est assez satisfaisante parce qu'elle renvoie à des choses qu'on a vues au début, qui est assez intelligente, et même dans sa mise en scène, des choses que je trouvais très, très surlignées au début se justifient finalement, se justifient à la fin. Et donc voilà, il y a cette espèce d'entonnoir scénaristique un peu con qui fait que je mettrais un bémol au film, sinon moi je l'aurais trouvé vraiment, vraiment très intéressant.
Moi, je trouve
malgré son absence d'enjeu apparente.
Ouais, moi je le trouve relativement, effectivement relativement intéressant. Le problème, c'est que Clooney, et on le remarque après Good Night and Good Luck justement, c'est que c'est un mec qui veut faire un cinéma très didactique. Concrètement, il commence le film en disant je vais vous expliquer comment on a pu lutter contre le macartisme. Je vais vous expliquer comment la politique, c'est en gros relativement pourri.
Donc un point de vue très américain.
Plus compliqué que ce que ça en a l'air.
Exactement. Et donc, il part sur ce postulat-là. Tu dis qu'il met du thriller. Concrètement, il est inspiré par des mecs des années 70, Eiji Pakula, Sidney Lumet, mais qu'eux mettaient beaucoup plus de thriller dans leur film.
Mais voilà, c'est ça. C'est voilà.
Et le menait beaucoup plus fort.
Mais oui, parce
et
que
lui,
là,
c'est vraiment mou dans le thriller, hein, sincèrement. Hein.
Ben oui,
ça va pas bien loin, quoi.
C'est dosé, c'est-à-dire à un moment, comme disait FX, il faut en rajouter un petit peu parce que sinon on est quand même trop plan-plan, quoi.
Et voilà. Une pauvre péripétie, et d'un coup c'est les trois jours du Condor, donc ça devient ridicule.
Mais il en met, il en met qu'un peu. Je trouve que le film est un peu sauvé par son casting, quand même, qui est vraiment excellent. Mais pour le reste, c'est quand même relativement mou du genou
Mais c'est mou du genou parce qu'il essaie de faire ça, justement. Il devrait pas essayer de faire ça. Ouais, Scholler s'en sort très bien sans mettre du rebondissement dramatique artificiel.
C'est quand même incroyable que un film français l'emporte sur un film américain.
Un film français à l'influence très américaine en plus. Je trouve, moi, dans cette façon de filmer des mecs en costard, tout ça, cette façon de faire du film noir aujourd'hui, il y a une influence du cinéma classique américain pour moi.
En tout cas, sur un film de genre, parce que
c'est un cinéma mythique. On est plus dans le mythe que dans le vrai cinéma américain. Parce que je trouve que pour le coup, Clooney, ça m'étonne la façon dont, évidemment, il est américain, donc il va parler de ce qui est américain, mais je le trouve vraiment particulièrement américain.
Bah, dans les enjeux qui sont exposés.
Dans tous ces films.
La dramaturgie, du coup.
Moi, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il n'y a aucun film américain qui ressemble au film de Scholler. Et non, laissons à Scholler ce qu'il a fait, quoi. Il a fait un film français.
Non, t'es revenu sur Clooney.
Non, tu parlais pas de Scholler, là ?
Non, de Clooney.
Ah, pardon, excuse-moi. Donc, je me suis gouré dans mon propos, mais FX voulait parler.
Moi, parce que je disais qu'il y avait quand même pour moi, il y a de l'influence. L'influence très classique américaine, même japonaise, même d'autres choses, mais il s'est nourri de choses. Et il l'a dit lui-même, Scholler. Hein.
Non, Scholler, tu parlais de Scholler. Oui, non, on est d'accord, d'accord. Non, mais comme le cinéma français, je trouve, depuis 2-3 ans, je trouve que, voilà, il me surprend de semaine en semaine. Je pense, voilà, si un film français comme celui-là de Scholler, enfin voilà, et à sa propre autonomie, il rentre dans une qualité de cinéma français qu'on est en train de faire, quoi. Donc, mais juste pour en rajouter par rapport à ce que vous avez tout dit, en gros. En effet, Sidney Lumet et Pakula, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils désinguaient tout, du petit employé jusqu'au pouvoir. Et donc là, il y a juste deux niveaux, en fait, de pouvoir. Et donc, ils expliquaient finalement, ils faisaient des films sur des choses très compliquées qui nous semblaient à nous très, très simples, que ce soit sur la télé, les juges, les policiers, enfin, peu importe, sur toutes les formes de pouvoir. Mais là, c'est vrai que le film n'a pas d'intérêt, en fait. Voilà. Après, deux choses. C'est quand même, moi, j'adore quand Philippe Seymour Hoffman est filmé seul sur un trottoir, je trouve ça juste génial parce que lui qui baisse la tête dans un manteau en hiver un petit peu, je trouve ça magnifique. C'est un plan qui, il rentre dans une bagnole, il en ressort, je trouve ce plan-là bien.
Et ce plan-là aurait pu être dans un Pakula ou dans un Pollack.
Je relève mon doigt parce qu'on arrive vraiment au bout d'émission.
Et deuxième théorie, c'est voilà, c'est peut-être un peu plus pipeau et people, c'est que quand même, ça fait trois films que Clooney filme des hommes et des rapports de force entre les hommes. Moi, pendant Cinécool, il y a une actrice qui m'a dit de toute façon que Clooney, il est homosexuel. Donc, je suis en train de me dire qu'il est en train de faire son coming out à travers son cinéma, tout en étant photographié avec les plus belles filles du monde dans les magazines.
Et c'est qui l'actrice ?
C'était la Miss Météo de Canal+, qui est Louise Bourgoin, voilà, qui est une actrice, hein, vraiment. Mais
c'est tout.
Voilà, c'est ça, on peut dire ça. Mais en tout cas, c'est intéressant comme théorie. Donc je pense pour le prochain film de Clooney, ça donne tout de suite des ouvertures.
Bah, il va prendre un chez Birodi et puis c'est fini.
Bon, et on termine avec Hors Satan de Bruno Dumont avec.
Alors là. Ah, encore un film de PD, allez, vas-y.
Bruno Dumont, Georges Clooney, tu crois que ça peut matcher ?
Ça bande brune. Ouais,
tout peut marcher avec Bruno Dumont.
Je ne sais pas.
Non, mais c'est pas important.
Non, ça peut importer. C'est important, mais voilà, mais peu importe, effectivement, parce qu'on n'en a plus le temps.
Sur la côte d'Opale, une famille de paysans, donc le père maltraite sa fille, mais tu ne le vois pas vraiment, et passe à un. un mec, on peut l'appeler comment ce mec ?
Un rebouteux, je sais pas, c'est un espèce de chaman.
Voilà, qui va faire lui régler son compte à son père et qui va se balader avec la fille. Il va y avoir une liaison entre les deux et voilà. Je sais pas si ça suffit comme pitch, il faut peut-être ajouter quelque chose, non ?
Il pratique l'exorcisme comme ça de
oui,
temps en temps.
Mais
c'est plus, ouais, c'est plus un peu chamanique, quoi. C'est un peu du soin, voilà.
Si tu joues comme ça au tennis, je comprends que tu sois pas classé.
Oui, c'est un peu chamanique, c'est vrai.
Voilà, c'est le plus beau film de Dumont. C'est un film où il se débarrasse de toutes ses théories. Et que ça soit métaphysique ou religieuse ou enfin voilà tout ce qui était pesant, inexplicable, tout ce qu'on savait pas, on savait pas quoi dire. Et pour faire vraiment un film de cinéma, il y a un cinémascope qui est fantastique, l'histoire est implacable, on est dans quelque chose de dur, de dru, de qui va au bout de la chose. Donc on a quelque chose de cohérent, voilà. Enfin, quoi. Et voilà, d'une force cinématographique voilà, évidente. La lumière, le travail du chef opérateur est fantastique. Il y a une scène d'exorcisme qui est une des scènes les plus impressionnantes d'exorcisme de cinéma. Voilà, c'est super. C'est vachement bien. Et en parlant du cinéma, enfin, je ne sais pas si c'est français, si c'est belge, ou si c'est lillois, ou j'en sais rien, quoi. Mais voilà, encore un exemple de film français qui surpasse plein. Parce qu'on n'est pas loin du film de genre. Hein. On aurait pu le placer dans un festival du film fantastique ou des choses comme ça. En tout cas, c'est du grand cinéma d'auteur français. Voilà, très très bien.
Bon, c'est au mot presque que j'en aurais dit.
C'est facile, mais c'est, ça mérite d'exister.
Vrai, je ne veux pas le répéter, quoi. Non, c'est vrai, je suis d'accord aussi.
Tu peux le dire autrement, au mieux.
Ouais, non, bah non.
Et en cours aussi.
Non. Ouais, non, je confirme effectivement qu'à mon sens, c'est aussi le meilleur film de Dumont. C'est comme une boule, quoi, qui aurait mangé tous ses autres films. C'est vraiment bien. Tu vois, j'aurais dû rien dire de plus.
J'ai cru que tu allais dire comme une boule de flipper, mais moi je l'ai vu il y a trop longtemps et j'ai trop dormi pour en parler.
Moi je trouve ça à la fois fascinant comme tous les films de Dumont et agaçant par moments. J'ai vraiment des moments d'embarras avec la direction, enfin la façon dont les acteurs jouent, avec cette espèce de déterminisme, pas du déterminisme, je retire tout de suite ce que je viens de dire, mais cette façon très... très particulière de dire les choses, de diriger les acteurs. Enfin voilà, donc je suis partagée entre énervement et fascination pendant tout le film. À la fin, le plaisir, l'admiration l'emporte. Surtout parce qu'il y a quand même une des scènes de sexe les plus spectaculaires que j'ai vues. Oui, ça en devient effectivement érotique. Enfin, c'est
exorcisme.
Elle est de bout en bout jusqu'à sa conclusion après coup hein, et en plus ça éclaire le rapport, enfin ça éclaire les rapports entre les personnages avant, enfin je la trouve superbe, je la trouve magnifique à tous les niveaux. Pour moi c'est, on parlait de pivot de film au début de l'émission, c'est vraiment pour moi le pivot de ce film là et ce qui justifie tout et ce qui explique tout et ce qui rend magique tout le reste et voilà. Par contre moi j'ai quand même une préférence pour Flandre dans la carrière de Bruno Dumont.
C'est l'autre très grand film de Dumont. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans le rapport de Dumont au spectateur et au cinéma qui est en train d'évoluer, de changer. Et je pense qu'il est en train de s'ouvrir. Il y a un truc qui s'ouvre sur... alors que c'est vraiment pas un personnage aimable et facile. Enfin voilà, ça fait quand même 3 ou 4 fois, je sais pas, qu'on passe du temps ensemble, qu'on n'arrive pas à lier grand-chose. Enfin voilà. Et là, il est en train vraiment, dans son rapport au spectateur, je l'ai vu en salle, à s'ouvrir, à vouloir donner du plaisir au spectateur, à parler de cinéma, tu vois, de choses vraiment très très belles. Un peu théorique quand même, parce que voilà, c'est un théoricien le mec, quoi.
Mais le qui s'en défend et qui dit vraiment qu'il ne fait pas un cinéma intellectuel mais un cinéma des sens et
physique, ouais. Et il le fait pleinement, quoi. Il a vraiment réussi son affaire, quoi.
Mais il s'est tellement ouvert qu'il veut faire Camping 3, et pareil, moi ça me surprend beaucoup quand même.
Mais tu vas avoir Camping 3 dans
Camping 3, dans Amis pour la vie comme pour Les Bronzés, il veut tout refaire pareil en fait
dans la banlieue de Lille, tu vas voir ça.
Bon, alors on a franchement dépassé le temps qui nous était imparti. On a le droit de conseiller un film dans ce dont on a parlé ou d'autres, mais pas forcément de développer.
L'exercice de l'État.
L'exercice de l'État aussi.
Alors, Non, peut-être ça sort là mercredi, donc je sais pas si vous le chroniquerez sur la prochaine. Mais
bah oui, bah non.
Non, ah. Mais c'est un film en décalé, c'est Portrait d'une enfant déchue qui aurait dû sortir mercredi dernier en plus.
Jerry Schatzberg.
De Schatzberg, je trouve ça super. Pour un premier film, c'est incroyable.
Jersey, pas Jerry.
Non, Jerry, c'est ça. Hein.
Ah oui, Jerry, oui, pas oui. Jersey.
C'est un américain. Moi, je conseille un film, Drive, l'exercice de l'État.
C'était un mois relativement plein. J'ai envie de dire allez voir Skylab tant qu'il est encore à l'affiche. C'est vraiment super sympa.
En fait, je crois qu'il est plus à l'affiche dans les deux salles à partir de demain. Qui le passait.
Bon, vous verrez à la télé.
Tant pis. Hein.
Torrent. Non, ça marche,
je
sais pas. On peut le voir sur Torrent.
BitTorrent.
Non, je sais pas. Un truc de téléchargement.
Oui, c'est bien ce que je pensais que tu voulais dire.
Et on ferait pas un générique de fin.
Je cut.